franceinter.com.
1000 ans d'histoire ne sera plus diffusé à partir du vendredi 25 février. Nous vous invitons à vous abonner sur franceinter.com à la nouvelle émission historique de France Inter, La Marche de l'Histoire, à partir du lundi 28 février.
Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. Évangile de Marc.
D'histoire, Patrice Gélinet.
Depuis Moïse ouvrant la mer Rouge pour permettre aux Juifs d'échapper aux soldats de Pharaon, jusqu'aux guérisons miraculeuses d'aujourd'hui, l'histoire de toutes les religions est faite de miracles. Ces phénomènes inexpliqués, attribués à une intervention divine et auxquels on donne une signification spirituelle, à condition bien sûr d'y voir autre chose qu'une supercherie. Puisque les miracles ont été faits à la mesure des facultés de la masse, les anciens ont tenu pour miracle ce qu'ils ne pouvaient expliquer par des moyens communs, écrivait Spinoza, à une époque où l'on commençait à dire que les miracles n'étaient que le produit de l'ignorance des hommes. Mais le scepticisme des philosophes ou des scientifiques n'a jamais troublé les millions de malades qui, depuis 150 ans, vont devant la grotte la plus célèbre du monde en espérant le miracle qui les guérira.
Lourdes, sur l'immense place devant la basilique, l'un des « pourquoi » de Lourdes, les malades.
Seigneur, celui que tu aimes, les malades.
Seigneur, dis seulement une parole et je serai guéri.
Seigneur, dis seulement une parole et je serai guéri.
Le 9 octobre 1987, un certain Jean-Pierre Belli se rend en pèlerinage à Lourdes. Il souffre d'une sclérose en plaques, une maladie en principe incurable. Et pourtant, quelques jours plus tard, Jean-Pierre Belli est guéri, il peut marcher. Il raconte comment, une nuit, il s'est levé et il a marché.
J'étais réveillé par une main que j'ai sentie qui s'est posée sur ma hanche. Quand il y a eu une idée qui m'a traversé l'esprit, comme si quelqu'un me disait « Allez, lève-toi, marche !» Alors je suis descendu de mon lit et j'ai commencé à faire mes premiers pas.
Patrick Sbalguero, bonjour.
Bonjour.
Alors c'était une de ces guérisons qui ont fait de Lourdes depuis 150 ans le lieu de pèlerinage le plus célèbre de France. Vous le rappelez dans un livre, L'Église face aux miracles, édité chez Fayard. Alors, en commençant d'abord, commençons peut-être par la définition du miracle qui est justement difficile à définir puisque par nature, le miracle est inexplicable.
Oui, c'est même la question, je pense, la plus difficile. On considère qu'un miracle est un prodige physique, tangible, matériel, pourrait-on dire, qui dépasse, qui outrepasse, qui transcende les lois de la nature. Et dans l'optique, disons, chrétienne ou biblique, du moins, c'est un prodige qui porte une signification religieuse, spirituelle.
Et que la science est incapable d'expliquer. D'ailleurs, on pourrait dire d'une certaine manière que, à l'époque de la préhistoire, en voyant une aurore boréale, eh bien, un homme préhistorique pouvait se dire c'est un miracle.
Oui, sans doute, de même que n'importe quelle manifestation atmosphérique ou climatique. Hein. Je crois que là, effectivement, si on se place dans d'autres cadres géoculturels, on aboutit effectivement à cette définition-là. Je le répète, dans l'optique judéo-chrétienne, donc biblique, on est face à un événement, ça peut être une guérison, ça peut être plein de choses, qui dépasse effectivement la science, les connaissances scientifiques, qui portent une signification, disons, de type religieux.
Et cela dans toutes les religions, Patrick Sbalguero, même si vous-même, ne serait-ce que par le titre de votre livre, L'Église face aux miracles, vous ne parlez que des miracles chrétiens, mais il y a eu des miracles. Le judaïsme a connu des miracles, plus tard l'islam, mais aussi, et c'est l'objet de votre livre, le christianisme, dont les premiers miracles sont ceux de Jésus dans les évangiles.
C'était le temps des miracles. Jésus imposait sa main, et les humeurs impures se retiraient de ceux qui en étaient affligés. Il se dégageait de lui une telle vertu qu'il les guérissait tous.
Le quatrième jour, après les nonnes de mai, Jésus et ses disciples entrèrent dans la ville de Capharnaüm. Là, Jésus étendit les mains sur un fou furieux et chassa le démon de l'homme. Le même soir, Jésus ramena à la santé un enfant moribond. Deux miracles en une seule journée.
Ça n'existe pas, les miracles. Il n'y a que les sots pour y croire. Je n'ai jamais entendu une pareille ânerie.
Un bon miracle n'est jamais qu'un tour à droit, à moins qu'il ne fasse partie d'une nouvelle foi, d'une nouvelle religion. Alors seulement il devient un mystère sacré et gagne de nouveaux partisans.
Alors vous le rappelez dans votre livre, Patrick Sbalchiero, les premiers miracles du christianisme, on les trouve bien sûr dans les évangiles et ce sont ceux que fait Jésus.
Oui, tout à fait. Juste un mot pour revenir sur ce que vous disiez à l'instant. C'est dans la religion chrétienne que l'on trouve, sur le plan quantitatif, le nombre le plus élevé de miracles. Mmh. Effectivement, dans les évangiles, il y a ce fameux épisode des noces de Cana, où Jésus de Nazareth change l'eau en vin.
C'est, dites-vous, le premier miracle des évangiles.
C'est considéré comme le premier miracle des évangiles, qui porte une signification, en tout cas pour les théologiens, profonde, réelle, mais qui est un miracle, effectivement, qui est un prodige tangible, puisque les invités à cette noce de Cana, eh bien, ont pu constater que subitement, il manquait du vin et donc l'eau était changée en vin.
Les miracles, est-ce que les religions en général, le christianisme en particulier, existeraient sans miracles? Parce que vous distinguez le miracle preuve du miracle signe. Et d'abord, le miracle, c'est la preuve de la puissance, de l'existence, de la puissance de Dieu, de l'existence ou de la divinité de Jésus et d'ailleurs des saints aussi.
Personnellement, je n'aime pas le terme preuve en tant que miracle. Si l'on utilise le vocable de preuve, on est plutôt du côté de la science, des scientifiques. D'ailleurs, la tradition, la théologie chrétienne, qu'elle soit catholique, protestante ou orthodoxe, n'aime pas beaucoup le mot preuve. On parle plutôt de signe, c'est-à-dire de quelque chose de signifiant, effectivement, une manifestation de Dieu, mais qui est quelque chose d'un petit peu ineffable.
Oui, mais sans miracle, par exemple, Jésus serait un homme parmi d'autres. Est-ce que ce n'est pas aussi ce qui permet de dire, ben voilà, il est effectivement d'origine divine?
Effectivement, les miracles de par l'histoire, et dès les évangiles, dès les récits évangéliques, permettent de montrer que Jésus de Nazareth n'est pas n'importe qui, en l'occurrence, et qu'il est effectivement, disons, d'origine céleste ou surnaturelle ou divine, on peut appeler ça comme l'on veut pour les croyants en tout cas. C'est non pas une preuve, mais une manifestation qui tente à attester quelque chose de supérieur, si vous voulez, disons, à l'orbite humaine.
Et puis alors, le miracle des miracles, bien sûr, c'est d'abord son incarnation, et puis sa résurrection, c'est ça le véritable miracle,
voilà.
Enfin en tout cas les plus importants de ceux qu'on trouve dans les évangiles.
Même s'il n'y a eu aucun témoin de la résurrection. La résurrection là non plus n'est pas une preuve au sens mathématique du terme, c'est un signe, c'est considéré comme un prodige, et les récits évangéliques sur les modalités tangibles, physiques de la résurrection n'existent pas. On ne sait pas comment les choses se sont passées. On l'est là dans le domaine spirituel.
Et puis il y a ce miracle quotidien pour les chrétiens qu'est l'Eucharistie, c'est-à-dire en fait la transformation du vin en sang du Christ, oui, et du pain en chair.
Voilà. Là aussi, la science ne peut pas le prouver. Vous pouvez toujours prendre une hostie consacrée, comme l'on dit, et la passer sous un microscope et vous n'obtiendrez pas de changement notoire en termes de molécules, en termes de matière. Par contre, c'est une histoire de foi. Dans une certaine mesure, le miracle ne peut être appréhendé qu'à travers la foi.
Ce qu'on appelle la transsubstantiation.
La transsubstantiation, ça c'est un mot qui a été inventé au XIIIe siècle par saint Thomas d'Aquin, qui en a inventé d'autres, mais que la théologie actuelle n'utilise plus beaucoup.
Alors c'est un miracle, on peut le dire. Jésus n'est pas le seul à pouvoir faire des miracles, vous le rappelez, il y a aussi les apôtres, il y a tous les saints. Voici les signes, disait Jésus dans l'évangile selon saint Marc, qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. Et ça, effectivement, les saints sont également capables de faire des miracles.
Tout à fait. Il y a finalement deux grandes catégories de miracles, disons, bibliques ou du moins évangéliques. Il y a les guérisons que Jésus a pu réaliser en nombre élevé et les exorcismes qui sont considérés effectivement à l'époque comme des sortes de guérisons, des guérisons donc de possession. Et lorsque les apôtres agissent, c'est toujours au nom du Christ. Ils ne revendiquent jamais à travers les récits, effectivement, un propre pouvoir personnel de thaumaturge, de guérisseur. Ils le font toujours au nom du Christ, qu'il leur a promis, là aussi, encore une fois, dans la foi, eh bien, de pouvoir réaliser le tel miracle.
Il n'y a pas que les saints, d'ailleurs, vous le rappelez, Patrick Sbalchiero. Il y a aussi les rois, même quand ils n'étaient pas des saints, qui ont un pouvoir, du moment qu'ils sont de droit divin, qui sont des rois thaumaturges, rappelez, qui guérissent les écrouelles, dit-on. Rappelez ce que c'est.
Voilà, alors ça, c'est tout à fait passionnant. Ça, on est au Moyen-Âge, hein, bien sûr. Et les rois de France ont le pouvoir, à l'issue de leur sacre, en général dans la cathédrale de Reims, sauf exception, de pouvoir guérir les écrouelles, qui est une maladie à l'époque extrêmement dangereuse, mortelle, qui vient d'un très grave déséquilibre nutritionnel en particulier. Alors à l'issue de la cérémonie, généralement le lendemain, on réunit quelques centaines, parfois même quelques milliers de personnes souffrant des écrouelles, et le roi passe de l'un à l'autre en touchant la partie malade du corps, hein, du souffrant, en disant « le roi te touche, Dieu te guérit ». Et au fur et à mesure que le temps a passé, la formule consacrée s'est transformée « le roi te touche, que Dieu te guérisse ».
Oui, parce que je suppose qu'il n'y ait pas beaucoup d'écrouelles qui étaient guéries de cette manière.
Voilà.
Alors ce sont des miracles, miracles des rois, miracles des saints de leur vivant, ou encore après leur mort, par l'intermédiaire des reliques, comme celle de Saint Janvier, martyrisé en 304 et dont le sang est conservé à Naples dans la cathédrale Nostra Signora dell'Annunziata et qui se liquifie, paraît-il, tous les ans depuis 1700 ans, même sauf quand se produit une catastrophe.
Dis lui d'accomplir le miracle, que son sang se liquifie.
San Gennaro, accomplis ton miracle, bénis la République.
Le sang ne va pas se liquéfier. Vous verrez qu'il n'y aura pas de miracle. Le miracle a eu lieu, mes frères. Le sang s'est liquéfié.
Le miracle. Le bilan du tremblement de terre qui a touché l'Europe aurait fait près de 300 victimes rien que dans le nord de l'Italie.
Et ce tremblement de terre a été ressenti jusqu'à Naples. Naples où les habitants étaient très inquiets depuis quelques jours. En effet, le miracle de Saint-Janvier ne s'est pas produit au début du mois comme il se produit chaque année. Il s'agit d'un phénomène encore inexpliqué, la liquéfaction de ce qui serait le sang de Saint-Janvier, jadis évêque de la ville. Et à chaque fois que ce sang ne se liquifie pas, il y a après une catastrophe en Italie. Et les Napolitains n'hésitent pas à faire la relation avec ce terrible séisme. Il faudra tout de même un jour que l'Église se prononce clairement sur ce phénomène.
Et c'était en 1976, l'année où le sang de Saint-Janvier ne s'était pas liquéfié, parce qu'il faut qu'il se liquéfie pour que la ville soit rassurée. En revanche, s'il reste solide, il y a une catastrophe. Patrick Sbalchiero, ça prouve la puissance de cette relique. Vous rappelez l'origine du mot relique, reliquia, ce qui reste. Du sang de Saint-Janvier.
D'un saint du IVe siècle, et effectivement, pour les Napolitains, c'était un très mauvais présage lorsque le fameux sang de Saint-Janvier, du moins la quantité de sang conservée dans une ampoule, hein, dans la cathédrale, ne se liquéfie pas. Là, on est, en général, c'est l'annonce d'une catastrophe, etc. Alors, jusqu'à preuve du contraire, on a échafaudé différentes hypothèses scientifiques, des hypothèses chimiques, etc. Comment expliquer qu'effectivement, qu'un flacon de sang se mette à se liquifier une fois par an? Mais c'est un état de fait en l'état actuel des connaissances. Et les Napolitains, qui sont en général très croyants, eh bien, restent grandement attachés à cette pratique.
À cette relique, hein, justement. Alors, les reliques, il n'y a pas que les saints de leurs vivants qui peuvent faire des miracles, ils en font bien après, c'était le cas de Saint-Janvier, bien après leur mort, par l'intermédiaire des reliques.
Oui.
Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, existent les pèlerinages, Patrick Sbalchiero.
Oui, et c'est même la raison pour laquelle l'Église, dès le Moyen-Âge, canonise des fidèles que l'on considère comme effectivement des chrétiens tout à fait exemplaires. Alors les pèlerinages sont en grande partie, je dis bien en très grande partie, nés effectivement de la présence de reliques considérées comme miraculeuses, donc presque partout dans le monde chrétien.
Et toutes les villes essayent d'avoir des reliques, il y a même un trafic assez sordide qui se fait autour des reliques des saints.
Alors ça c'est tout à fait passionnant, effectivement il y a même autrefois des ouvrages de publiés sur le vol et le trafic des reliques, vraies et fausses reliques, parce que vous avez des gens qui se mettent à fabriquer de fausses reliques, on a comme cela dizaines voire des centaines de morceaux de la croix du Christ, on a des vêtements de la Vierge, on a tout un tas de choses qui n'ont jamais existé, qui ne sont pas fondées historiquement parlant, mais qui attire, en particulier donc pour toute la période médiévale, qui attire des milliers de personnes sur les routes.
n'y a pas que les reliques qui peuvent faire des miracles, qui ont un pouvoir miraculeux, il y a aussi les images ou les statues des saints.
Oui, alors ça, cela prend naissance, si vous voulez, dans la dernière partie du Moyen-Âge. Jusqu'aux environs du XIIe siècle, simplement les reliques, les ossements, si vous voulez, sont concernés. Au-delà de cette date, vous avez maintenant des images, des reproductions de saintes et de saints, d'images pieuses, de tableaux, que l'on considère comme miraculeux. Alors, comment les choses se passent? Eh bien, les gens viennent toucher les reliques, viennent toucher les images, on se dit guéri de telle ou telle maladie, évidemment incurable à l'époque, et la diffusion de l'imprimerie un petit peu plus tard va permettre là aussi une sorte de reconnaissance de ces guérisons.
Mais on voit même les images ou les statues des saints qui sont en transpiration, qui pleurent sans guérir personne, mais enfin, là encore, ça peut paraître un peu bizarre.
On a depuis le début du christianisme environ 250 récits, rien que pour l'Occident latin, de tels phénomènes. C'est très varié, vous avez toute une gamme de phénomènes considérés comme prodigieux, de la statue effectivement qui se met à pleurer, qui suinte. Alors les stigmates bien entendu, le premier étant évidemment saint François d'Assise. Ce n'est pas la raison pour laquelle il a été canonisé d'ailleurs, mais c'est le premier stigmatisé donc de l'histoire. Et ces statues, ces images, eh bien, émettent des liquides, ça peut être des produits huileux, comme on a beaucoup au sein de l'Orient chrétien, ça peut être effectivement de la sueur, etc. Et les gens accourent. Les gens accourent. Et le phénomène, je dois simplement ajouter que le phénomène continue aujourd'hui en 2007.
Et il n'y a pas de saint sans miracle, mais est-ce que c'est le saint qui fait le miracle, parce qu'il est un saint, il peut faire des miracles, ou est-ce que c'est le miracle qui fait le saint? Parce que de ce point de vue-là, l'Église est très précise dès lors qu'elle désigne les saints. Il faut qu'il puisse faire des miracles.
Oui, alors ça c'est une question vraiment fondamentale. Alors, ce n'est pas le miracle qui fait le saint de son vivant, si j'ose dire. Autrefois, dans les premiers siècles du christianisme, c'était le cas. Maintenant, non. Il faut que le candidat aux autels, comme l'on dit, le futur bienheureux, le futur saint...
Mais parce qu'on érigeait un autel au-dessus de son corps.
Exactement, et à partir de l'année 403, vous avez même, les évêques décident de placer des reliques sur et dans les autels pour célébrer l'Eucharistie. Ça c'est un signe quand même qui ne trompe pas et qui met la relique au centre des affaires, si je peux dire, même au niveau des sacrements. Eh bien, on considère un bienheureux ou un saint, non pas comme une personne ayant fait des miracles, mais comme un fidèle ayant vécu de manière, disons, héroïque ou exemplaire les vertus évangéliques. Bon, en plus, s'il a fait des miracles, c'est très bien. Et l'Église catholique demande effectivement des miracles prouver du mieux que l'on peut pour pouvoir publiquement, officiellement célébrer ces affaires. Et il existe de grandes saintes et de grands saints sans miracle in vivo, de son vivant. Je peux en citer deux pour la période contemporaine, Sainte Thérèse de Lisieux et Mère Thérèse de Calcutta, par exemple.
Mais avant, au fait, c'était aussi le peuple qui faisait le saint, c'est-à-dire qu'on disait telle personne a fait tel prodige, etc. Et en fait, la manifestation de l'autorité de l'Église, c'est le jour où elle a décidé que ça passerait d'abord par le Vatican, c'est-à-dire par la création en 1588 d'une congrégation des rites, qui existe depuis maintenant 400 ans.
Oui, tout à fait. En fait, le processus est un petit peu plus long, si vous voulez. À partir de l'Empire carolingien, l'épiscopat, les évêques, et puis la papauté, les papes, essayent de gérer tout ce que l'on peut, disons, désigner comme le merveilleux, les miracles, de manière de plus en plus serrée, étroite. Il y a une sorte, je ne dis pas de mainmise, mais de contrôle de plus en plus fort sur ces questions à partir du 9e et 10e siècle. Et on aboutit à partir du 13e à véritablement un contrôle administratif et juridique de plus en plus fort et qui s'est poursuivi jusqu'à maintenant.
Oui, parce qu'autrement, n'importe qui pouvait dire « j'ai fait » ou « un tel a fait un miracle, un tel... »
Alors autrefois, effectivement, dans les premiers siècles, c'était vox populi, vox dei, c'est-à-dire que les fidèles réunis en plus ou moins grand nombre et le clergé local pouvaient décider eh bien, de la sainteté d'un candidat, de quelqu'un qu'on connaissait.
Jusqu'à donc la création de cette congrégation des rites, voilà, qui concrétise l'autorité de l'Église sur les saints et sur les miracles et aussi sur ceux qui en doutent.
Galilée, croyez-vous aux atomes?
Je crois que la matière est divisée en petites unités, en très petites unités.
Mettez-vous en cause le principe de la transsubstantiation lors de l'Eucharistie?
Nullement, Éminence.
Vous croyez véritablement que le pain de l'hostie devient le corps du Christ? Qu'il y a transmission de substance?
Oui, je le crois, bien sûr.
Pourtant, vous parlez d'atomes, comme l'hérétique Bruno. Or, le corps du Christ ne peut pas se résoudre en atomes, sinon la transsubstantiation, c'est impossible.
Je crois au miracle de l'Eucharistie comme tout bon catholique.
Que représente la science pour vous?
La science, C'est le meilleur chemin pour se rapprocher de Dieu.
La voilà ! La preuve que nous cherchons, car le seul chemin pour nous rapprocher de Dieu passe par l'Église. Vous placez la science sur le même pied que l'Église. Vous faites de la science une religion. C'est une hérésie.
Et oui, c'était le début d'un long conflit entre la religion et les sciences, notamment, entre autres, à propos des miracles, Patrick Sbalchiero, qui sont également contestés par ce que l'Église, on vient de l'entendre, appelle des hérésies. La première étant le protestantisme, qui, lui, doute de la réalité des miracles et refuse le culte des saints.
Oui, alors, il y a une chose assez symptomatique. Jean Calvin, au XVIe siècle, écrit un livre qui est le Traité des reliques. Il s'en prend directement à l'Église catholique et à son culte des reliques en disant, voilà, vous n'avez dans tous les villages de France et de Navarre et même d'Europe 50 000 reliques du Christ, 50 000 reliques de la Vierge, tout ceci est faux bien sûr, et ça constitue même un obstacle pour la véritable religion, hein, pour la véritable foi. Alors effectivement, il y a chez les protestants, et encore faudrait-il qu'on distingue évidemment les différentes tendances hein, du protestantisme, en particulier au XIXe siècle avec le protestantisme libéral, eh bien vous avez globalement chez les protestants ce refus, hein, bien sûr, de religion populaire, du culte des reliques, et, etc.
Ceci
et
étant des dit... miracles pour les, qui pour Luther étaient de la superstition. En fait.
Oui, tout à fait, tout à fait. Calvin et les autres réformateurs également du XVIe siècle. Mais globalement, actuellement, les protestants ne rejette pas, si vous voulez, en bloc les récits évangéliques et les guérisons du Christ. Hein. Je crois qu'il faut faire la part des choses.
C'est dans, disons, le culte des saints. Alors, il y aura plus tard également les encyclopédistes qui doutent évidemment des miracles, qui en nient même la réalité. Ouais. L'encyclopédie sera d'ailleurs interdite par l'index. Et il y a ceux aussi qui brocardent les excès du culte des saints et de leurs reliques. Évidemment, ce qui met l'Église un peu en porte-à-faux quand on voit certains excès. Vous évoquez par exemple les convulsionnaires de la Saint-Médard en 1731. C'était quoi?
Alors là, c'est, si vous voulez, dans la lignée du jansénisme. En 1727, un certain Paris meurt. Il était diacre de son état. Et on l'enterre dans un cimetière parisien, le cimetière de Saint-Médard. Et autour de sa tombe, des phénomènes divers, genre prodigieux ou miraculeux, sont allégués rapidement. Et les gens disent, voilà, on est guéri, c'est un saint. Et donc, a fortiori, ces six miracles existent. Eh bien, les jansénistes ont raison, puisque ce sont apparemment une preuve. Bon. Et puis, à partir des années 1729-1730, ce qu'on appelle des convulsionnaires, des gens ont des convulsions sur cette même temple donc, du diacre Paris. Alors, les pouvoirs publics s'en mêlent. Ça donne lieu, évidemment, à des échanges assez musclés entre Louis XV, le gouvernement royal, et ces fameux jansénistes qui avaient été condamnés par Rome. Et on fait fermer tout bonnement le cimetière, ce qui provoque encore une chose assez épouvantable, c'est que les gens se retirent dans leur domicile privé avec tout un tas de pratiques complètement bizarres.
Qu'il faut un peu penser au culte sectaire d'aujourd'hui. Alors, évidemment, l'Église réagit sévèrement, surtout quand le rationnel en plus s'en mêle au 19e siècle en renant doute de l'existence des miracles et avec le Concile Vatican I qui dit si quelqu'un dit qu'il ne peut y avoir de miracles ou que les miracles ne peuvent jamais être connus avec certitude ni servir à prouver efficacement l'origine de la religion chrétienne, qu'il soit anathème. Autrement dit, il y a une très grande fermeté aussi dans la façon dont on enquête sur la réalité par exemple de l'apparition de la Vierge auprès de Bernadette Soubirous. L'Église prend très au sérieux, ne veut pas prêter le flanc, évidemment, à toutes les critiques qui se font.
Tout à fait. Et là, si vous le permettez, il faut juste remonter un tout petit peu en arrière, au XVIIIe siècle que nous évoquons. Au XVIIIe siècle, il y a un pape dont la figure domine un petit peu tout le reste, qui est Benoît XIV. Et Benoît XIV a globalement, si vous voulez, édicté des règles de discernement ou de critique vis-à-vis des phénomènes, des guérisons en particulier, dans un dialogue avec la philosophie des Lumières. Voltaire lui dédie d'ailleurs son livre sur Mahomet. Et depuis Benoît XIV, l'Église en est dans une certaine mesure resté à ces critères de discernement. Donc, quelque part, les autorités ecclésiastiques sont un petit peu, je dirais pas entre le marteau et l'enclume, mais d'un côté, on veut éviter effectivement les critiques et à la fois du rationalisme, du scientisme, etc., mais ne pas nier en bloc la réalité des miracles évangéliques et des miracles des saints. En ajoutant que les apparitions mariales, les apparitions de la Vierge, puisque vous citiez Bernadette Soubirous, ne sont jamais considérées par l'Église comme un objet de foi, comme un dogme. Vous pouvez parfaitement être bon catholique sans croire une seconde aux apparitions de la Vierge.
En tout cas, l'Église est plus exigeante aussi dans les procès en béatification ou en canonisation des saints, fussent-ils papes. France Inter, Fabrice Drouel, le 30 mars 2007.
Les catholiques appellent le pape Saint-Père. Pour Jean-Paul II, il ne croyait pas si bien dire. Le processus de béatification du pape défunt va à la vitesse de l'éclair. Il faut dire que son ascension vers la sainteté a déjà passé une étape pas facile à négocier, le miracle. Il s'agit de cette religieuse française de 45 ans, sœur Marie-Simon-Pierre, qui affirme depuis le 2 avril 2005, le jour de la mort de Jean-Paul II, qu'elle a vu les symptômes de sa maladie, Parkinson en l'occurrence, disparaître. De la même façon qu'il y a eu « Lève-toi et marche », il y a eu pour la religieuse « Prends ton stylo et écris ».
Quand je suis rentrée dans ma chambre, j'ai eu envie d'écrire, alors que pour moi écrire était difficile. J'ai eu l'impression d'entendre une voix qui me disait « Prends ton stylo et écris ». Et j'ai écrit. Et en voyant mon écriture, je me suis dit « Mais c'est drôle, ton écriture est très lisible ». Et là, je me suis sentie mais complètement transformée. Je n'étais plus la même intérieurement. Quelque chose qui m'est difficile de vous expliquer. Je ne peux pas dire intérieurement ce que je ressentais vraiment. C'était trop fort, trop grand. Un mystère.
Et un mystère reconnu comme un miracle, puisqu'il faut, il faut combien de miracles aujourd'hui, Patrick Sbalchiro, pour que l'Église reconnaisse un saint?
Alors, depuis 1983, date à laquelle Jean-Paul II a légèrement modifié, je dirais, les paramètres de reconnaissance de la sainteté, il faut un miracle pour devenir bienheureux et un autre pour devenir saint. À l'exception toutefois du groupe des martyrs. Je dis groupe parce qu'en général, les martyrs, ce n'est pas toujours obligatoire, mais on canonise les martyrs sans qu'il y ait miracle, hein, forcément miracle.
Et alors que la science a fait de tels progrès qu'évidemment, on croit de moins en moins au miracle, il se trouve que Jean-Paul II, qui donc est béatifié, qui sera canonisé, en plus on accélère la procédure, le procès en béatification, en canonisation pour son cas, et le pape, vous le rappelez, qui semble croire le plus au miracle, puisqu'il a canonisé plus de saints dans son pontificat que tous ses prédécesseurs réunis.
Oui, alors ça c'est tout à fait exact. Je pense que Jean-Paul II était un pape qui croyait à la sainteté. Je ne sais pas s'il croyait autant au miracle, mais en tout cas à la sainteté, ça c'est certain. Et il considérait que la sainteté était non pas réservée à tel ou tel fidèle, tel ou tel chrétien menant une vie un petit peu spéciale, contemplative, retirée du siècle et retirée du monde, mais une chose qui était possible pour tout le monde. Donc si vous voulez, pour lui, ça ne faisait pas dissociation, ça ne faisait pas obstacle dans son esprit. Et effectivement, il a mis à contribution, il a mis au travail des commissions de plus en plus nombreuses et qui ont dû évidemment travailler de façon très acharnée sur ces questions. Et ça continue dans une certaine mesure, puisqu'actuellement, à la Congrégation pour les causes des saints, vous avez plus de 2200 dossiers en instance.
Est-ce que ce n'est pas ce qui peut fragiliser, au fond, la foi? Parce que c'est vrai que les miracles, vous le rappelez, on y croit de moins en moins. Et pourtant, on en invoque de plus en plus, justement, Patrick Sbalchiro. Autrement dit, quel est leur avenir?
C'est une question très difficile. Je pense que depuis 2000 ans, l'Église maintenant s'appuie sur ces miracles pour dire, pour affirmer officiellement tel ou tel fidèle est saint. Maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a de très grandes saintes et très grands saints contemporains qui n'ont de leur vivant, jamais revendiqué de miracle.
Merci Patrick Sbalchiro. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre « L'Église face aux miracles » chez Fayard. Vous avez également dirigé le Dictionnaire des miracles et de l'extraordinaire chrétien et avec René Laurentin, le Dictionnaire des apparitions de la Vierge, tous deux disponibles chez Fayard. À lire également « Enquête sur les miracles de Lourdes » et « Enquête sur les apparitions de la Vierge » d'Yves Chiron aux éditions Perrin et « L'hostie profanée, histoire d'une fiction théologique » de Jean-Louis Schaeffer chez POL. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants « Le roi des rois » de Nicolas Rey, disponible en DVD chez Warner Home Video, « Galilée ou l'amour de Dieu » de Jean-Daniel Verreg, édité par Coba Film Video, et enfin « La San Felice » de Paolo Vittorio Taviani, en DVD chez France Télévisions. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Éric Mainviel, Dimitri Gronoff, Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Anne-Cécile Perrin et Franck Olivard et à notre réalisatrice Anne Kobilac.